Cette semaine à Vidéo Terreur, le studio mythique de la Hammer et le cinéma britannique.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la Télé-Duo du Lac.
Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on va vous parler de la Hammer. Qu'est-ce que c'est? On en parle immédiatement avec notre spécialiste et fan fini de films d'horreur, monsieur Jimmy Francoeur. Salut Jimmy.
Bonjour Pierre.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, ça va. La Hammer, c'est mythique. La Hammer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'un studio qui a produit presque exclusivement des films d'horreur. Mais comment on l'a défini, la Hammer? C'est quelle période? C'est quoi la Hammer pour toi, Jimmy?
Ben, en fait, effectivement, on pourrait dire que c'est deux choses. C'est à la fois un studio, une maison de production et presque un style en soi parce que on peut reconnaître assez facilement là, les films qu'ils ont produits. Ils ont une identité, je dirais, vraiment clairement évidente. Là. C'est William Hines et Enrique Carreras en 1934.
Quand même,
là, qui ont fondé la Hammer. Avant la guerre, en fait, ils vont produire, trois comédies, deux films de guerre. Puis avant la guerre, c'est un studio, je dirais, qui est excessivement anonyme. Après la guerre, produisent quelques comédies, films de guerre encore une fois. Mais à un moment donné, ce qui se produit en fait, c'est qu'ils découvrent leur propre vocation, le viol film d'horreur. Là. Et c'est à partir de là que je dirais la légende va naître.
Comment ça se passe, ça, ce début-là? C'est quoi le film qui a marqué les débuts de la Hammer? Puis comment ça s'est passé?
Curse of Frankenstein, ça avec Christopher Lee, qui va jouer la créature de Frankenstein. On veut faire un remake là, de Frankenstein. On se dit, ça pourrait être intéressant. On n'a pas les droits du visuel de Frankenstein, donc on va vraiment sortir là, du visuel qu'on avait connu avec la Universal. Puis, parlant d'Universal, en fait, on pourrait dire, les films Universal, on en parlera un autre jour, mais c'est les monstres classiques, là, le loup-garou, la créature du marais, Frankenstein. Et la Hammer, essentiellement, je dirais, est l'héritière spirituelle d'Universal.
Qu'on reprend ces grands mythes-là, du loup-garou, du vampire, de la créature comme Frankenstein, mais on va les réinterpréter d'une autre manière.
Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment le cheval de bataille de la Hammer, de récupérer les grands classiques, de les remettre en couleur, de leur donner un style et de les remettre au goût du jour.
Là. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut reconnaître, en fait, au niveau des films de la Hammer?
Bien, premièrement, je pense les acteurs, les réalisateurs. Tu sais, il y a deux réalisateurs vraiment, je dirais, marquants, là, qui est Freddie Francis puis Terence Fisher, le grand Terence Fisher, qui sont des réalisateurs, là, je dirais, qui ont été très, très marquants. Les acteurs aussi, je dirais, incontournables, Christopher Lee, Peter Cushing, qui sont, je dirais, éternellement, je dirais, associés là, à leur rôle. Bon, Christopher Lee a joué quand même d'autres personnages là, pour les Hammer, mais on va toujours l'identifier à Dracula, là, qui est clairement son...
Oui, c'était le Dracula de le post-Bela Lugosi. Là.
Oui, tout à fait. Où on a un Dracula à la fois menaçant, mais aussi à la fois plus séduisant.
Plus charismatique.
Mais pour revenir au premier film d'horreur, comme on dit tout à l'heure, là, c'est Curse of Frankenstein, où on cherche à faire un remake, mais on ne s'attend pas nécessairement à avoir le succès qu'on a eu. Là. Encore une fois, comme bien des modes là, au niveau du cinéma, c'est le hit qui fait qu'on fait « Oh, OK, on tient quelque chose. » Fait qu'avec le monstre de Frankenstein, on commence à avoir un film intéressant. Et à partir du moment où c'est un succès, là, il y a toute la réflexion « OK, si ça fonctionnait avec Frankenstein, ça pourrait fonctionner avec Dracula. » Christopher Lee va être engagé une deuxième fois pour non seulement jouer Dracula, mais qui avait joué précédemment Frankenstein. Et là, plus on en produit, plus on a des gros succès et on continue même pendant bien des années.
Mais on a élargi la mythologie là, de ces créatures-là, là, parce que des Frankenstein et Dracula, il y en a des dizaines de différents. Là.
Ben, en fait, vois-tu, là, au niveau là, du... Il y a eu 9 Dracula puis 6 Frankenstein.
OK.
C'est pas tous les Dracula qui ont été joués par Christopher Lee parce qu'à la fin, il commence à trouver là, que bon, la formule s'essouffle un peu. On en reparlera tout à l'heure, mais essentiellement, oui, Dracula et Frankenstein, ça a été les deux plus grandes séries, je dirais, de films que la Hammer a produit. Là.
Puis qu'est-ce qui va les différencier des films de la Universal qui datent de quelques décennies auparavant?
Ben, première, je pense, premier élément marquant, c'est vraiment au niveau de la couleur.
Ah ben oui.
Simplement, je dirais, le fait que les films Universal sont des films en noir et blanc, on marque, je dirais, un début de la modernité là, avec la couleur. Pour ceux qui connaissent les films de Hammer, je dirais, On a joué aussi beaucoup sur la couleur du sang. On a un sang qui est vraiment assez facile à reconnaître. Tire un peu sur le orangé. On est aussi, je dirais, là, dans un mouvement. Là, parce que il faut quand même se dire aussi, la Hammer, c'est une compagnie anglaise.
OK.
Le cinéma anglais, par définition, est un cinéma peut-être plus restreint, plus qui est plus dans l'autocensure. Puis la Hammer, c'est pas une grosse compagnie. La Universal, on est vraiment dans une compagnie de cinéma qui est la plus grande compagnie de cinéma américain. Ils ont le budget, ils ont les moyens. Hammer, c'est une petite compagnie émergente. Là. Donc, okay. On mise aussi, oui, sur la couleur, mais on mise aussi sur montrer un peu plus de sang, y aller un peu plus sur le côté, bon, on ne pourrait pas dire érotique, mais plus sexy de la chose pour aller chercher, je dirais, marqué. Là. Ouais. Donc, il y a ce mouvement-là aussi d'en montrer un peu plus en espérant que les gens vont aller au cinéma. Puis, bon, sur le plan de l'histoire, on est beaucoup dans des thèmes quand même qu'on pourrait qualifier de classiques. Là. L'affrontement entre le bien et le mal. Il n'y a pas la vertu triomphe du mal. Essentiellement, je dirais, on est dans des thèmes quand même, je dirais, classiques. La Hammer, c'est pas nécessairement été se fait remarquer pour aller à contre-courant. Là.
De ou de ces scénarios. Sauf que moi, il y a quelque chose que je remarque quand j'écoute les films de la Hammer, c'est le niveau de jeu. Mm-hmm. Les comédiens sont excessivement bien dirigés. C'est très, très shakespearien dans la manière de jouer. On n'est pas nécessairement dans la peur de quelque chose, mm-hmm. mais plus dans l'ambiance. Est-ce que je me trompe?
Oh, effectivement. Ben, encore une fois, c'est intéressant là, comme réflexion. Effectivement, le jeu des acteurs, bon, juste avec Sir Christopher Lee et Peter Cushing, on a des grands acteurs, des acteurs aussi qui sont des acteurs qui arrivent aussi du théâtre.
Oui, c'est ça.
Donc, ils ont un jeu, je dirais, assez imposant. Effectivement, on n'est pas tant dans la peur. Mais ce qui est intéressant, là, je lisais récemment que, tu sais, on regarde toujours ces films-là aussi à travers notre lunette moderne.
Ouais.
Quand on regarde les premières critiques, là, fait justement, là, quand on va aller chercher dans les premiers Dracula, les premiers Frankenstein, les premières critiques, là, sont choquées. Là.
Ah oui.
Certains disent que là, on est à la limite du bon goût, qu'on sort de là un peu choqué. C'est dur de se remettre, je dirais, nous autres, là, un peu dans cette optique-là, mais...
Il n'y a pas plus puritaine.
Oui, alors que nous autres, je dirais souvent, je dirais, c'est presque dans le romantisme, la Hammer, on regarde ça un peu avec notre... je dirais, c'est presque cute, je peux dire, les films aujourd'hui. Mais à l'époque, là, il faut quand même se rendre compte qu'on choque. Là. Ouais. On n'a jamais vu du sang comme ça, on n'a jamais vu... un étalage, je dirais, tu sais, de décolleté. Donc, il y a une réaction quand même qui est viscérale pour l'époque là, qu'on a peine, je dirais, un peu à concevoir aujourd'hui.
On est dans quelle année? Hein?
Fin des années 50, là, juste la période dorée, là, on est à peu près à fin des années 50 jusqu'à les fin des années 60, début 70. Là.
Fait que c'est un peu le penchant britannique de ce que les Giallo faisaient pour l'Italie.
Tout à fait. Mais beaucoup, beaucoup plus restreint, beaucoup plus classique.
Oui, on est plus dans le classique. Mais est-ce que le côté de l'érotisme qu'ils ont ajouté dans leur film, est-ce que ça peut pas venir aussi de la popularité que les Giallo avaient à ce moment-là?
Probablement aussi, là, que encore une fois, t'sais, les ingrédients qui fonctionnent au cinéma, c'est pour se démarquer, bon, ben, on augmentait la violence, on augmentait aussi l'érotisme. Puis moi, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire aussi avec les James Bond.
Okay.
Au sens où, tu sais, on regarde la série des James Bond, qui est une série basée justement sur l'Angleterre, où on a commencé à voir, parce qu'en fait, on dit bon tout à l'heure qu'on a 9 Dracula, fait qu'on est dans l'esprit des séries, là.
Ouais.
Avec James Bond aussi dans l'esprit des séries. Puis il y a quand même 15 acteurs de la Hammer qui ont joué dans des films de James Bond, là. Que ce soit au niveau des actrices, des acteurs. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été qui se sont retrouvés aussi dans les James Bond. Autre fait intéressant aussi, c'est, on a souvent parlé des Bond Girls, donc le côté, vraiment, l'importance de l'esthétique de la femme dans les James Bond. Mais on a vraiment cette logique-là aussi dans les Hammer. Là. Les actrices là, sont des films excessivement jolis. Ils prennent une place, je dirais, vraiment sur le marketing même du film. Fait que, tu sais, quand on regarde ça un peu, là, on est dans même un peu lignée de séries de films, l'importance des actrices, l'importance aussi d'avoir des films, d'en produire aussi beaucoup avec une idée de continuité.
Là. Oui, parce qu'on produit beaucoup de films quand même.
Énormément, là. Ça se compte dans plusieurs dizaines.
Est-ce qu'on a parlé des acteurs classiques, on a parlé de Peter Cushing, Christopher Lee. Est-ce qu'il y a des actrices qui reviennent de manière récurrente dans les films de Hammer?
Quand même, je voudrais, bon, la reine du lot, c'est Ingrid Pitt, qui a fait, c'est elle qui détient le plus grand nombre de productions. quelques actrices ici et là, mais je dirais, je reviens au James Bond, on n'est pas loin de ça, où chaque fois, on essaie de trouver un nouveau talent à mettre à l'avant-plan.
Nouvelle muse.
Oui, donc on n'a pas nécessairement l'idée de toujours réutiliser la même actrice, comme par exemple plus tard là, avec Jamie Lee Curtis, où on va essayer de la voir le plus souvent possible, là, comme parce qu'elle est associée à une image. On a moins ça dans la Hammer, on visait beaucoup plus d'essayer de trouver la nouvelle muse, j'aime bien l'idée. Là. Comme élément marquant, on a aussi la musique. La musique de Hammer est assez facilement reconnaissable, c'est assez classique. James Bernard, c'est vraiment le compositeur de la Hammer. La plupart des films, là, que les thèmes, que ce soit Dracula, Frankenstein, c'est lui qui les a écrits. C'est vraiment, je dirais, le pilier musical là, de ces films-là. Il y a eu d'autres compositeurs, mais là, c'est un incontournable.
Puis, c'est quoi le secret de la Hammer? Parce que quand tu parles à des gens qui sont fans de films d'horreur, au bout du compte, on connaît peu les compagnies. On connaît les gens, les affaires, mais la Hammer ressort souvent. Qu'est-ce qui a fait que c'est mythique? T'sais? Quand on parle de cinéma italien, on parle des Giallo, mais c'est un ensemble de films, c'est pas une compagnie. Qu'est-ce qui a fait que la Hammer s'est démarquée autant que ça, puis qui est resté dans l'imaginaire collectif aussi longtemps sans être une grosse compagnie, en fait.
Ben, c'est intéressant. Je pense qu'eux-mêmes, à un moment donné, ont trouvé leur propre créneau. Je pense qu'ils ont assumé que ce qu'ils faisaient bien, c'était des films d'horreur. Puis qu'ils ont, je dirais, ils ont campé là-dessus. Donc, quand le film commençait, clairement, le logo de la Hammer apparaît.
Ouais.
On veut s'afficher. Je pense qu'on est vraiment dans l'idée de chercher vraiment à s'afficher plutôt que d'être comme simplement un logo de studio qui défile là, comme dans la plupart des autres films. Là.
Qu'on puisse faire une association. Là.
Donc, je pense qu'on a vraiment cherché même à être connu pour ça. Alors que comme si on regarde dans d'autres compagnies, par exemple Paramount, où on cherchait presque à se distancer de ses propres films d'horreur comme Vendredi 13, où on les produisait pour des raisons financières, mais on n'avait aucun intérêt d'être associé au produit. Hammer, c'est complètement le contraire. Là, on cherche à s'afficher. On
mettait de l'avant la compagnie, là.
Clairement, puis même leur logo à une certaine époque, je veux dire, on est à un château avec des chauves-souris, on est assumé, là. On ne sait pas de nous faire croire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Là.
Puis suite à toute cette vague-là, là, où on a fait les films de Frankenstein, de Dracula, etc., est-ce qu'il y a d'autres grandes thématiques qui sont ressorties? Il semble aussi le diable, à un moment donné.
Ben, c'est intéressant parce que, bon, la Hammer, je dirais, comme compagnie va décliner là, jusqu'à la fin des années 80 où on va se mettre en veilleuse ou elle va s'éteindre. À un certain moment donné aussi, bon, quand vous faites des films avec, appelons ça, de l'horreur gothique depuis les années 50, bien, à un moment donné, vous êtes aussi associé bon, à votre produit, mais en même temps aussi au côté un peu vieillot. Là.
T'es prisonnier de ça, fait quand tu essaies de faire d'autres choses, les gens s'attendent à ce que tu fasses ton produit. Mais en même temps, en faisant toujours la même chose, à un moment donné, tu te renouvelles pas puis tu perds des gens, c'est ça?
Effectivement. Donc, à un moment donné aussi, bon, par exemple, là, To the Devil at a Daughter, Exorcist a été, je dirais, probablement un des éléments importants dans le déclin de la Hammer.
Le film L'Exorciste.
Ouais, parce que, bon, en fait, oui, il a servi d'inspiration, là, mais il faut comprendre qu'avec Exorciste, les grandes compagnies se rendent compte que c'est possible de faire de l'horreur et que ce soit excessivement lucratif. Avant ça, on laisse ça un peu, je dirais justement, aux studios indépendants. On investit un peu là-dedans. Mais à partir d'Exorcist, on dit, OK, on peut faire de l'horreur et être crédible et que ça soit aussi très lucratif. Fait que les gros joueurs ont commencé aussi à produire des films d'horreur. Donc, la Hammer a perdu un peu, bon, je ne dirais pas de son exclusivité, mais a perdu un peu son pignon sur rue. Ils ont quand même essayé de sortir du gothique. Là. Il y a une vague aussi, on essaie de faire un peu des trailers psychologiques, des films justement un peu orientés là, comme Exorcist, de Possession, axé sur le diable.
Ouais.
Et on s'en va tranquillement, je dirais, essayer de s'adapter comme ça, mais je pense qu'essentiellement, ils n'ont jamais réussi à se réinventer au point où la compagnie, je dirais, aurait pu continuer son essor. Là.
Au départ, ils définissaient un peu le genre, puis à un moment donné, vers la fin, ils étaient plus. Ils faisaient partie du genre où ils suivaient parce qu'ils allaient où ils pensaient qu'il
était associé, je pense, à quelque chose d'un peu vieillot. Parce que, par exemple, là, je veux dire, la Hammer aurait dû produire des films comme Night of the Living Dead.
Ouais.
D'être à l'avant-plan dans, je dirais, le nouveau cinéma qui ose. Et à quelque part, je pense qu'ils ont toujours voulu. Mais ils étaient un peu prisonniers de leur image. C'était l'horreur de gloire. Ils étaient associés à ça. Il y avait des fans qui étaient encore là, je dirais, purs et durs. Si on s'éloignait de ça, ben, on perdait au moins notre valeur sûre. Mais, tu sais, par exemple, si la Hammer avait eu des cinéastes comme Carpenter ou Cronenberg dans leur studio, ça aurait pu être intéressant, mais je pense qu'ils n'ont jamais réussi à se relever un peu ou à sortir du carcan un peu de l'image là, qu'ils avaient.
Surtout
là.
Que c'est des grands réalisateurs qui mettent aussi le nom du réalisateur, tandis que la Hammer, le réalisateur est souvent, je dirais pas effacé, mais c'est plus la compagnie qu'on va mettre en avant-plan. Là.
Je pense qu'ils ont eu de la misère à passer l'époque des années 80. Il y a la montée des slashers aussi.
Puis ça a arrêté à un moment donné. On fait faillite?
Oui, à un moment donné, le studio a fait faillite. On a fin des années 80. Ils ont, je dirais, les derniers soubresauts de la Hammer, en fait. Là, on a même tenté la télé. Il y a eu Hammer House of Horror puis Hammer House of Mystery. Hammer House of Mystery, on l'a eu au Québec. Ça s'appelait Histoire singulière. Ça a passé en 1986 à TVA. C'est une série de 13 épisodes. Des téléfilms, en fait, à peu près une heure. Puis, donc, le passage à la télé, là, ça a été, je dirais, un peu le dernier souffle où on dit, bon, peut-être que finalement...
Notre niche est là.
Notre niche est là. C'est pas ce qui s'est passé. En 2008, la compagnie va renaître un peu de ses cendres. Il y a quelques 5-6 films actuellement là, à leur actif. On tente, je dirais, un peu de tabler là, sur l'image de la Hammer, mais...
Parce que l'image est importante, l'esthétisme. Donc, quand on voit les affiches, les couvertures, les affiches de films, et là, je parle des couvertures de VHS parce que c'est de mon époque, là. Mais ça, c'est marquant, là. D'ailleurs, tu sais, allez voir la page Facebook de la Hammer, puis là, vous allez voir et vous envoie tout le temps des affiches de films, puis tu fais oh, ouh, l'esthétisme était sublime. Là.
Ah oui, les affiches sont extraordinaires. Je veux dire, ils ont réussi à créer leur propre mythologie. Il y a un classicisme aussi vraiment génial là, dans ce qu'ils ont réussi à faire. Les acteurs, encore une fois, sont extraordinaires. Puis il y a quelque chose de, je dirais, de très, je veux dire, charmant aussi. Là, mais très coincé. On reconnaît le style anglais, puis en même temps, c'est intéressant parce que c'est du style. Les personnages sont anglais, il y a quelque chose de très restreint. C'est de l'horreur qui est, je dirais, pour nos critères actuels, assez inoffensive.
Oui, clairement. Quelqu'un qui découvre la Hammer aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu lui conseilles d'écouter pour se plonger dans l'univers de la Hammer?
Horror of Dracula avec Christopher Lee, là, qui est un des grands classiques. Dracula Prince of Darkness aussi, je pense, un bon, très bon avec, encore une fois, Christopher Lee, Peter Cushing. Plague of the Zombies, un film de zombies vraiment excellent, où on reprend le zombie, non pas, je dirais, à The Walking Dead, là, mais le côté haïtien.
Oui, OK, légende, le vaudou. Là.
Où, en fait, le zombie est vraiment un esclave là, d'un magicien. C'est un excellent film. La série des Frankenstein aussi est excellente. Là. Je dirais ça, c'est... de façon générale, les Frankenstein ont beaucoup mieux vieilli, mettons, que Dracula. Tu sais, par exemple, si on regarde l'année dernière Dracula 1972, clairement, là, on est très, très essoufflé. La série des Frankenstein a bien vieilli. Ça pourrait être très bien. Je ne sais pas de ton côté, suggestion?
Non, on est pas mal là-dedans. Là. Il y a... Le film de Diable là, avec...
The Devil and Daughter.
Oui, ça, ouais, ça. Ben, dans leur autre période, là, très intéressant. Mais sinon, moi, je suis d'accord aussi, les Frankenstein ont bien vieilli. Certains Dracula aussi ont encore un look, mais pour l'esthétisme, pour tout ça. À voir, là, très intéressant. Puis aujourd'hui, c'est quand même assez facilement disponible. On est capable de trouver.
Oui, on est très chanceux maintenant. Là, je dirais, la Hammer a amené un intérêt, même au niveau des livres. Beaucoup d'ouvrages qui portent sur le sujet. Les films sont maintenant réédités... éditions.
Oui, c'est vraiment... Il y a quoi de mythique qui est d'inexplicable?
Beaucoup plus même à rire qu'Universal, même si au niveau de l'esthétique. Mais tu sais, même au niveau de l'esthétique, je dirais, la plupart des gens se rendent peut-être pas compte, mais je dirais, l'imaginaire qu'on a de l'Halloween d'aujourd'hui là, est très, très teinté
de
la Hammer. L'image qu'on a de Dracula est, je dirais, est fortement teintée de Christopher Lee et Bela Lugosi. Là.
Hey, merci Jimmy, c'était encore très très instructif. Ça me donne le goût d'écouter les films de la Hammer ce soir. Excellent. Je vous invite à faire de même. Merci d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Luc Paul et Jean-François Bourbeau. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, vidéoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.